Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Harlem, 21 février 1965, la mort de Malcolm X. Ne l'appelez pas Malcolm Little. Non, ne l'appelez pas par ce nom. C'est celui de son père. C'est celui auquel il a répondu les 25 premières années de sa vie. C'est lui qu'il aurait dû donner à ses enfants, mais ce n'est pas son vrai nom. Little, c'est celui des Blancs qui gardaient sa famille en esclavage. Or, Malcolm est noir. Alors, appelez-le par le patronyme qu'il s'est choisi, Malcolm X. Assassiné donc le 21 février 1965, depuis tous les 21 février chaque année à cette date, c'est jour de deuil chez les Afro-Américains. Comme le 4 avril, l'anniversaire d'un autre assassinat, celui de Martin Luther King, 3 ans plus tard, en 68. Martin Luther King et Malcolm X, les deux plus grandes figures du mouvement noir américain. Ils servaient un même but, l'égalité raciale. Mais chacun avait sa méthode. La non-violence pour King, tous les moyens nécessaires pour Malcolm X. Le sort les a tout de même réunis dans la mort. Tous les deux ont été assassinés. Malcolm X était un extrémiste. Il justifiait l'usage de la violence. Et il a été profondément raciste lui aussi. Mais sa voix vaut la peine d'être écoutée. Parce qu'il est mort en ayant changé. Et parce que ce qu'il dénonçait était vrai. Notre invité aujourd'hui, Nicole Bacharan, politologue, spécialiste de l'histoire américaine, autrice notamment du livre « Les Noirs américains, des chocs de coton à la Maison-Blanche » chez Perrin, en 2010. Et cette année, autrice de l'ouvrage « Les grands jours qui ont changé l'Amérique », toujours chez Perrin. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter.
Cet homme allongé entre ses chaises s'appelle Malcolm X. Il vient de mourir, tué par 4 balles de pistolet tirées à bout portant. C'était hier soir à Harlem. Malcolm X, vous le connaissez, c'est le leader noir le plus extrémiste, le plus violent. Hier soir, il tient un meeting dans Harlem, le quartier noir de New York. Pendant un moment, dans la foule, un noir l'écoute. Ce noir s'appelle Tamalja Ager, il a 22 ans et un pistolet dans la poche. Tout à l'heure, il va tirer et Malcolm X va mourir. Lorsqu'il voudra se sauver, l'assassin sera pris et presque lynché. Mais il semble que le commando chargé d'abattre Malcolm X était formé d'au moins 5 personnes, toutes noires puisque les blancs n'étaient pas admises à assister à la réunion.
C'est de cette façon que meurent les grands hommes aux États-Unis dans les années 60. La peau trouée de balle. 2 ans après Kennedy, Malcolm X tombe à son tour devant 400 personnes dans une salle de bal de Harlem baptisée L'eau du bon. C'est là qu'il parlait à ses partisans depuis sa rupture avec la secte de la Nation of Islam un an plus tôt. Il devait prononcer un discours, mais il n'en a pas eu le temps parce que un homme a sorti son fusil et a tiré. 2 autres hommes armés l'ont rejoint et Malcolm X, touché 16 fois, s'est effondré. Malcolm était un homme en danger, il était harcelé, sa maison avait été incendiée et rien ni personne ne pouvait contrarier ce jour-là le plan des hommes qui étaient venus le tuer. L'un d'entre eux a été attrapé par la foule, sauvé par la police et condamné. Mais les 4 autres n'ont jamais été inquiétés. L'enquête a été expédiée. L'assassinat de Malcolm X n'a été considéré que comme une guerre consanguine entre extrémistes noirs, une fusillade à Harlem parmi d'autres. Il n'y a qu'à lire ce que le magazine Time écrivait après sa mort, pour comprendre ce que l'Amérique blanche pensait de lui. Malcolm avait été un macro, un cocaïnomane et un voleur. C'était un démagogue sans vergogne. La haine était son évangile. Mais c'était ne rien comprendre ce que cet homme était aux yeux des Noirs américains, et particulièrement dans les ghettos du Nord. Un homme qui disait la vérité sur leur sort et qui osait comme personne défier l'Amérique blanche. Le 21 février 1965, Malcolm X est mort à Harlem, là où il s'était fait connaître.
Harlem. Une tache noire au cœur de la ville la plus riche du monde. Ici, il n'y a que des noirs. 300 000, 400 000 peut-être. Ici, un homme sur trois est en chômage. Ici, les enfants meurent deux fois plus qu'ailleurs. Ici, on tue six fois plus que dans le reste de New York. Ici, on consomme huit fois plus de drogue. She's a tailor. Harlem, ce n'est pas encore la Casbah, mais c'est déjà un ghetto, le ghetto noir.
Le boulevard qui relie le nord de Central Park à la Harlem River s'appelle aujourd'hui le boulevard Malcolm X. Mais du temps où celui-ci était en vie, et où le journaliste que vous venez d'entendre, un demi-cerveau bien de son époque, présentait Harlem comme une tache noire. Cette rue s'appelait l'avenue Lenox. Et c'est là, à l'intersection avec la 111e rue, qu'une secte musulmane, la Nation of Islam, avait trouvé un local pour implanter un temple. C'était le 7e du genre que cette secte fondait, ce qui lui a valu le nom de Temple numéro 7. Mais c'était le premier à New York. La Nation partait à la conquête de la plus grande ville des États-Unis en s'établissant à Harlem, qui avec ses 500 000 habitants était, dans les années 50, ce qu'on pouvait considérer comme l'une des plus grandes villes noires du monde. Le chef était un petit bonhomme du nom d'Elijah Muhammad. Et il plaçait en 1954 à la tête de son temple le plus important, son lieutenant le plus talentueux. Un ancien détenu de 29 ans, né Malcolm Little, mais qui depuis peu ne répondait plus qu'au nom de Malcolm X. Et de son arrivée jusqu'à son départ, les fidèles se réunissaient, les passants s'attardaient devant le temple numéro 7, attirés par le charisme de cet homme au costume impeccable, aux cheveux rasés, grand, avec un regard inquisiteur, mais un sourire irrésistible. Il se tenait debout là, sur une estrade, devant des banderoles qui affichaient en grandes lettres noires « Allah est notre seul Dieu ». Des enceintes des deux côtés de la scène diffusaient ce qu'il disait du haut de son pupitre, les convictions de la Nation of Islam, qui étaient aussi les siennes.
Nous voudrions vous dire encore une fois la solution que Dieu a donnée à l'honorable Elijah Muhammad. La séparation complète. La séparation immédiate du maître et de ses esclaves. En tant que musulmans, en Amérique, nous considérons la condition de l'homme noir comme de l'esclavage moderne. Nous ne voyons rien que Lincoln ait accompli qui ait changé quoi que ce soit, ni à la liberté, ni à la condition d'esclave dans laquelle les noirs vivent aujourd'hui.
Mais qui sont ces gens qui appellent à l'apartheid et qui, 100 ans après l'abolition de l'esclavage, disent que rien n'a changé? Eh bien, ce sont les adeptes de la Nation of Islam. On les appelle les musulmans noirs. Et ils sont faciles à identifier. Tous ont changé leur nom de famille par un X. Parce que leur vrai nom, celui de leurs ancêtres africains, ils ne le connaissent pas. Et ils refusent de porter un patronyme donné par des blancs. On les appellerait aujourd'hui des fondamentalistes, voire des intégristes. Le prédicateur James X explique leur précepte à l'ORTF en 1965.
Elijah Muhammad a expliqué que les pires des blancs sont ici aux États-Unis. Et le but de Allah est de les détruire. Et c'est alors une prophétie visionnaire extraordinaire. L'Amérique sera détruite par le feu comme avertissement pour tous ses amis et ses alliés. Cette destruction par le feu durera 390 ans. Les flammes auront 10 km de haut. Après cette destruction, pendant 610 ans, toute vie disparaîtra du continent américain. Pour l'instant, nous ne connaissons pas la date. Mais Mohamed dit qu'en 1970, il y aura la résurrection des morts.
Non seulement, et vous venez de l'entendre, la santé mentale de la Nation of Islam est déjà sévèrement atteinte, mais de surcroît, cette organisation est profondément raciste. Elle fait des blancs, de tous les blancs, les ennemis des noirs. Et l'homme qui exprime cette idée avec le plus de brio, c'est Malcolm X. Il est le quatrième fils d'une famille de 8 enfants. De sa fratrie, il est celui dont la peau est la plus claire, car il y a du sang blanc dans ses veines, celui de l'homme qui a violé sa grand-mère. Il est né en 1925 dans le Nebraska, en plein milieu des États-Unis. Depuis la fin de la guerre de sécession, les Noirs ne sont plus esclaves, nulle part. Ils sont censés être des citoyens comme les autres, mais partout, le racisme est profondément incrusté. Les Noirs ne sont pas les égaux des Blancs, et le Ku Klux Klan s'assure qu'ils comprennent qu'ils ne sont ni chez eux ni les bienvenus. La famille de Malcolm X n'échappe pas aux attaques du Klan, autre organisation de fondue d'extrême droite qui parade sous un costume grotesque et qui adresse les Noirs. Leurs fenêtres sont brisées, leurs maisons incendiées, et les Little fuient jusqu'à ce que le père soit retrouvé découpé par un tramway. La police parle d'accident, mais la famille est certaine que c'est un coup du Klan. La mère ne tient pas le coup, elle est internée, les enfants envoyés aux quatre coins des États-Unis. Malcolm, lui, passe de famille d'accueil en famille d'accueil. C'est un excellent élève, malgré tout. Il veut devenir avocat. Mais il faut être réaliste, lui dit un professeur. Avocat, ce n'est pas un métier pour un nègre. Alors, à la place à Boston, puis à Harlem, Malcolm verse dans le trafic de drogue et dans le proxénétisme. Loin du rêve d'appartenir au barreau, mais tout proche des barreaux. On l'appelle Red, rouge, comme la couleur qu'il a donnée à ses cheveux. Et il est arrêté et emprisonné pendant 6 ans, de 1946 à 1952. Satan, c'est comme ça que ces codétenus l'appellent. Ce n'est plus Malcolm Little, ce n'est plus Red, c'est Satan. Parce qu'il hurle sa haine de Dieu dans toute la prison avec un fanatisme effrayant. Ce n'est pas Dieu qui a fait l'homme à son image, dit-il. C'est l'homme blanc qui a fait Dieu à la sienne. Sinon, pourquoi Jésus serait-il blanc? Pourquoi Dieu serait-il blanc? La religion chrétienne a été faite par les blancs, pour les blancs. Et les blancs ont détruit sa famille et sa vie. Alors ses frères lui parlent d'une organisation qui s'appelle la Nation of Islam.
Quand j'étais chrétien, j'ai commis de nombreux crimes. Et ils m'ont conduit en prison. Là-bas, je suis devenu athée et agnostique. Et ce n'est que quand j'ai entendu l'enseignement de l'honorable Elijah Muhammad que je suis devenu religieux et que je me suis réhabilité. Mais j'ai compris que l'homme blanc était plus violent contre moi après ma réhabilitation que quand j'étais un criminel chrétien.
Radicalisé. À sa sortie de prison, Malcolm X rencontre son idole, Elijah Muhammad. Il devient un prédicateur et même son prédicateur le plus proche. Il est alors investi à la tête du temple numéro 7 à Harlem, d'où il prêche les leçons de son mentor. Autrement dit, l'abolition d'une société où les blancs se sont hissés au sommet de l'échelle sociale en détruisant les noirs. Et voilà la file d'attente devant la mosquée tous les jours un peu plus longue. Il n'y a plus assez de chaises pour asseoir tout le monde. Ceux qui ne trouvent pas de place s'installent sur les marches et ceux qui arrivent trop tard écoutent à l'extérieur les prêches de l'extraordinaire Malcolm X. C'est bien simple. Avant son arrivée, la Nation comptait 500 membres. 10 ans après, il y en a 30 000. Malcolm X s'impose en quelques années comme l'un des leaders noirs les plus importants aux côtés d'un pasteur du nom de Martin Luther King que la télévision française rencontre en 1962.
C'est à Atlanta que nous avons pu interviewer le champion de l'émancipation noire, Martin Luther King Jr. Il venait de sortir de prison 2 jours plus tôt et son premier sermon eut pour titre ce dimanche-là « Il faut aimer ses ennemis ».
D'ici 10 ans, à mon avis, nous verrons un Sud où il n'y aura plus de ségrégation. C'est-à-dire que légalement, la ségrégation ne sera plus possible, surtout dans les villes du Sud. Je dirais que dans 10 ans, ce sera devenu une réalité.
C'est en 1955. Quand une femme du nom de Rosa Parks décide un jour, en montant dans le bus, de s'asseoir sur les places de devant que la loi réserve aux Blancs, que la ville de Montgomery, dans l'Alabama, résonne par la voix de l'un de ses habitants, Martin Luther King, qui sonne la révolte des Noirs. Pour protester contre l'arrestation de Rosa Parks, King, 26 ans, organise le boycott des bus. Et de cet incident naît l'un des plus grands bouleversements de l'histoire américaine, la décision de la Cour suprême d'interdire la ségrégation raciale dans les bus, dans les restaurants et dans les écoles. Une œuvre énorme de King, qui a ainsi montré aux Noirs qu'ils pouvaient se battre en restant non-violents. Oui, bof, Malcolm X n'est pas convaincu. King veut l'intégration des Noirs à la société américaine, mais pourquoi se hisser au niveau des Blancs, en fait? Pourquoi, encore une fois, faire du Blanc un modèle? Non, les Noirs ne doivent pas être les égaux des Blancs dans la société blanche. Ils doivent avoir leur propre société, point. Et ils ne peuvent pas rester non-violents face à des gens qui, eux, le sont. King, au contraire, c'est l'intégration par la non-violence. Malcolm X, on l'a compris, c'est la séparation par tous les moyens nécessaires. X est un zélote.
Il n'y a pas de révolution non-violente. La seule révolution non-violente, c'est la révolution noire. La seule révolution où on nous dit d'aimer notre ennemi, c'est la révolution noire. C'est la seule révolution où le but, c'est de partager des restaurants, des cinémas, des parcs et des toilettes publiques. Où le but, c'est de s'asseoir à côté des Blancs aux toilettes. Ce n'est pas une révolution, ça. Vous ne savez pas ce qu'est une révolution. Si vous le saviez, vous n'utiliseriez pas ce mot.
Cette agitation ne plaît pas du tout au FBI, et particulièrement à son directeur, Edgar Hoover, qui en paranoïaque obsessionnel voit le mal partout, surtout s'il est communiste ou noir, et surtout, et en l'occurrence, en la personne de Malcolm X, qu'il surnomme le Messie noir. Un homme providentiel qui pourrait faire se soulever 30 millions d'Afro-Américains. Pour connaître le détail de la vie de Malcolm et de Martin Luther King, vous pouvez lire les dizaines de biographies qui leur sont consacrées. Mais vous pouvez aussi vous fier au dossier du FBI. Car dès sa sortie de prison en 52, Malcolm X est quotidiennement surveillé. Ses déplacements, ses passages à la télé, ses conférences, tout est consigné, d'autant que le mouvement noir ne s'arrête pas à l'affaire Rosa Parks. Non, elle embrasse tout le pays.
I have a dream today.
En 63, King parle de ses rêves à Washington devant 200 000 manifestants. Malcolm X, lui, ricane. King applaudit les efforts du président Kennedy. Malcolm, pas du tout. Il n'applaudit pas ses efforts, il applaudit sa mort. La télévision américaine l'évoque après l'assassinat du président.
Malcolm X, le numéro 2 du mouvement noir musulman, a exprimé sa joie suite à l'assassinat du président Kennedy lors d'un rassemblement dimanche dernier. Malcolm a dit que ce meurtre illustrait l'expression « récolter ce que l'on sème ». Et il a ajouté, je cite, « étant moi-même fils de paysan, la récolte ne me rend jamais triste, elle me rend toujours joyeux ».
Kennedy était le chef d'un pays violent et s'il est mort violemment, ce n'est que justice, dit Malcolm X. Mais même à la Nation of Islam, cette déclaration ne passe pas. En tant que président des USA, Kennedy est détesté par les musulmans noirs, mais il est tout de même très populaire, même parmi les Afro-Américains. Et il n'y a aucun intérêt politique à l'insulter, de toute façon. Malcolm X est trop encombrant, trop télégénique, trop populaire. Il est devenu le visage des musulmans noirs, mais le chef, ce n'est pas lui. Alors, le chef Elijah Muhammad, le vrai boss, suspend son meilleur prédicateur. Malcolm X n'a plus le droit de s'exprimer, poussé vers la sortie de la Nation of Islam. Il disposera donc d'un an pour enfin penser par lui-même et surtout pour se détourner de l'idéologie simpliste et raciste de la secte un an avant de mourir.
Shit. Say it loud.
France Inter, affaires sensibles.
La suspension de Malcolm X lui permet de comprendre ce qui le distingue de la secte Nation of Islam. Contrairement à ce qu'il laisse penser, il veut associer les musulmans noirs à la vague lancée par Martin Luther King. Mais Elijah Muhammad y est totalement opposé. Cette secte, la sienne, n'est en fait rien d'autre qu'une entreprise. Elle a monté des restaurants, des supermarchés, des teintureries, des cordonneries dans tout le pays, qui rapportent à son chef des millions de dollars. La cause noire, ce n'est qu'un outil promotionnel. Malcolm X s'en rend définitivement compte quand il apprend qu'Elijah Muhammad, ce fanatique qui prône l'islam le plus rigoriste, est loin, loin de suivre la ligne de conduite qu'il impose à ses fidèles. Et Malcolm X le dit à la télé en 64.
Elijah Muhammad, le chef du mouvement, a fait 8 enfants à 6 adolescentes différentes qui étaient ses secrétaires particulières. 4 d'entre elles ont eu un enfant chacune de lui. 2 ont eu 2 enfants, l'une d'elles est enceinte à Los Angeles.
Malcolm X s'en trahit, alors il quitte la Nation. Et pour redonner à sa foi toute sa pureté, il quitte également les États-Unis au printemps 64 pour visiter l'Afrique et pour faire son pèlerinage à la Mecque, comme tout bon musulman. Une fois de retour, son discours change radicalement. D'abord, il se montre disposé à collaborer avec le mouvement de King. Ensuite, il admet que non, les Blancs ne sont pas tous mauvais. Et il est même prêt à travailler avec ceux qui soutiennent la cause des Noirs. C'est qu'à la Mecque, il a communié avec des Blancs. Et la couleur de leur peau n'a eu aucune sorte d'importance. Ce constat naturel s'est naturellement imposé à lui. Alors il change de nom, comme à chaque fois qu'il change de vie. Il s'appelle maintenant Malek El-Shabazz, et il crée une nouvelle organisation, l'Organisation de l'Unité Afro-Américaine. Il trouve un nouvel endroit pour accueillir ses partisans, une grande salle de bal à Harlem qui s'appelle l'Eau du Bon. Il y parle le 28 juin 1964.
Salam alaikum.
Monsieur le modérateur, mes chers invités, mes frères et mes sœurs, mes amis et mes ennemis. Tout le monde est là. Le but de notre organisation de l'unité afro-américaine est de combattre quiconque se met sur notre chemin, d'obtenir l'indépendance totale des descendants africains en Occident et d'abord aux États-Unis, et d'obtenir la liberté de ce peuple par tous les moyens nécessaires.
Par tous les moyens nécessaires, Malcolm X n'est pas devenu non-violent, mais il a su endosser le costume de la respectabilité. Fini le côté bad boy. Et quand il voyage en Égypte, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, partout, il est reçu comme un représentant des États-Unis, comme le président de l'Amérique noire. Et il découvre autre chose. C'est que tous les Noirs, ceux d'Afrique du Sud, d'Angola, du Mozambique, comme ceux du fin fond de l'Alabama, ont un destin commun. La révolution noire sera internationale ou elle ne sera pas. Et ce sera la révolution de tous ceux que le capitalisme opprime. Malcolm X change de dimension. Il n'est plus qu'un nationaliste noir. Il est maintenant un révolutionnaire anticapitaliste. Et son regard se tourne vers Cuba, le Vietnam, la Chine. Il fait de plus en plus peur au gouvernement américain. D'un autre côté, son acharnement à traiter la Nation of Islam d'escroquerie lui attire la haine de la secte. Le révolutionnaire Malcolm X est un grave danger pour le FBI et pour la Nation. Le sort en est jeté, écrit Louis X, prédicateur de la mosquée de Boston. Un homme comme lui mérite la mort. L'assassinat de Malcolm X a commencé à être discuté un an avant le 21 février 1965 dans les couloirs de la Nation of Islam. Malcolm X n'est plus en sécurité nulle part. À Los Angeles, à Philadelphie, à Detroit, partout où il se déplace, l'attendent d'anciens camarades. Et lui, qui était si distingué, qui prenait tellement soin de garder une présentation impeccable, ses proches le voient changer. Ce sont des petits détails, mais il ne cire plus ses chaussures, par exemple. Ses chemises sont froissées, il est fatigué, ses cernes se creusent. Le 1er février, alors qu'il revient de Chicago, l'antre de la Nation, où il s'est encore une fois attaqué à la secte, il est déprimé et il confie à un journal. « Ma mort a été décidée aux échelons les plus élevés de la Nation. » James X, un autre prédicateur, vomit sa haine à la télé française quelques jours avant l'assassinat.
Yes, Malcolm X is a traitor.
Oui, Malcolm X est un traître.
And a rebel to the cause of Islam, as is taught by the Honorable Elijah Muhammad. Malcolm X is the type of traitor that once you experience such a person as that, and he had reached a high level of recognition.
Malcolm X est un traître ingrat. On se demande qui peut encore se fier à lui. Il vivait plus confortablement que les autres musulmans. Et c'est nous qui l'avions fabriqué. Même les Blancs ne peuvent pas se fier à lui.
Much better than the rank and file Muslim. I'm certain that we can't trust him, and I doubt that the civil rights can trust him, and I don't believe that the white man can trust him.
Et il n'y a pas que la Nation qui a un œil sur lui. Que dire notamment de cette note du directeur du FBI le 5 juin 1964 ? Faites quelque chose au sujet de Malcolm X, marre de cette violence noire. Le FBI a infiltré ses équipes, la CIA l'a suivi à l'étranger, et la police new-yorkaise a placé l'un de ses hommes jusque dans son service d'ordre. Dans la nuit du 13 au 14 février 65, Malcolm X est chez lui dans une petite maison de Queen. Ses quatre filles dorment, sa femme est couchée également. Lui s'est endormi sur son bureau, comme souvent après avoir travaillé tard. Et à 2h45, il est réveillé en sursaut par le bruit d'une fenêtre. Quelqu'un a lancé un cocktail Molotov, puis un deuxième, puis un troisième. Alors la maison prend feu en quelques secondes. Malcolm X et sa famille parviennent à s'échapper juste à temps et voient leur foyer avalé par les flammes. Deux jours plus tard, il s'exprime à l'eau du bon.
Je voulais que vous sachiez que ma maison a été incendiée. Et elle a été incendiée par les musulmans noirs, sur ordre d'Elijah Muhammad. Et je vais vous dire, la police est au courant des opérations criminelles des musulmans noirs, parce qu'elle les a infiltrés. La seule chose que je regrette, c'est que deux organisations noires s'entretuent. Elijah Muhammad pourrait tout arrêter, d'un geste de la main. Mais il ne le fera pas. Il n'aime pas les Noirs. Il n'aime même pas ses propres partisans. Il est devenu fou. En même temps, on ne peut pas avoir 70 ans, s'entourer de filles de 16, 17 ou 18 ans et rester sain d'esprit.
Cette nuit-là, Malcolm X a bel et bien échappé à la mort. Harlem, 21 février 1965, une semaine plus tard. Malcolm X n'a plus de maison. Il a à peine $200 en poche. Il cache sa famille chez les amis. Et il l'a dit l'avant-veille au New York Times. « Je vis comme un homme qui est déjà mort. » Il est 8 heures. Il dort à l'hôtel. Sur la table de chevet, le téléphone sonne. « Réveille-toi, frère », lui dit une voix menaçante qui raccroche aussitôt. X donne un discours à Loubidon à 14 heures. Il est en grand danger, il le sait. Pourtant, il a ordonné à son service d'ordre de ne pas venir armé et même de ne fouiller personne. Pour ne pas faire comme la Nation, a-t-il dit. Mais James, X, son plus proche collaborateur, se demandera toujours « En réalité, ne s'était-il pas résigné à la mort ?» Il est 13 heures quand Malcolm prend sa voiture en direction de Harlem. Il est tendu, de très mauvaise humeur. Au même moment, 5 membres de la Nation of Islam partent de Patterson, à l'ouest de New York, dans une Cadillac. Ils ont 2 revolvers et un fusil à canoncier. Quand Malcolm apparaît devant Loubidon, la foule s'agite. Les 5 de la Cadillac, eux, entrent dans Manhattan et se garent à Harlem, juste à côté de l'eau du Bon. Ils entrent. Devant la scène, il y a des centaines de chaises. 2 d'entre eux s'assoient vers le 6e rang, les 3 autres au premier, 2 à gauche, 1 au milieu. Quand Malcolm X surgit sur scène, la salle se lance dans une grande ovation. Alors, l'air fier, il contemple son public et lui lance « Salam alaikum ». « Alaikum salam », lui répond la salle. Mais il n'a pas le temps de prononcer un mot de plus qu'un des hommes de la Cadillac crie à son voisin « Sortez-moi de mes poches !» Alors, ils commencent à se disputer, le public s'interroge, Malcolm leur demande de s'arrêter. L'un d'eux en profite pour allumer un fumigène, le public est pris de panique, et là, un homme au premier rang se lève. Il marche droit sur Malcolm X, il ouvre son manteau, en sort un fusil à canoncier, il tire, une fois. Malcolm est touché à la poitrine. Il tombe en arrière. Il se redresse. Il lève la main. Il se raidit. 2 fois. Puis s'effondre. Les 2 complices se précipitent alors à contre-courant de la foule qui fuit en hurlant. Ils ont chacun un revolver. Ils tirent 21 fois. Puis ils s'enfuient. Mais l'un des 5 hommes est rattrapé par les gardes. Celui-là s'appelle Talmegade Hayer. Il a 23 ans. Malcolm X est porté en urgence à l'hôpital le plus proche. Après 15 minutes, les secours abandonnent l'espoir de le réanimer. À 15h30, le dimanche 21 février 65, dans un petit bureau d'un hôpital de Harlem où se pressent des partisans de Malcolm et des journalistes, un médecin annonce froidement « L'homme connu sous le nom de Malcolm X est mort. » Les Afro-Américains pleurent. Son ami James Baldwin, grand écrivain de la cause noire, répond à la télé dès le lendemain.
Dans les rues du Nord, qui sont nombreuses, Malcolm était une sorte de héros. Et quand il parlait aux gens dans la rue, il était le seul à décrire, à rendre compte de la situation de l'homme noir américain. Quand il parlait de choses dans lesquelles on se reconnaissait tous, le quotidien d'un père, d'un fils, ou d'une fille ou d'une femme noire, personne ne pouvait le contredire. Tout était vrai. C'était très important. Et maintenant, il est parti. On ne sait pas comment.
À peine la salle de bal est-elle évacuée que des femmes de ménage se mettent à genoux sur l'estrade et épongent à la hâte le sang de Malcolm X qui a imprégné le parquet. Il y a une fête organisée ce soir-là par une église de Harlem. La police n'y voit pas de problème et quitte les lieux. Et 4 heures après l'assassinat de Malcolm X, des centaines de personnes dansent là où il est tombé. Oui, au milieu des balles, fichées dans les murs, saccageant la scène du crime. 3 hommes ont été condamnés pour le meurtre de Malcolm X. Le tireur, qui a été arrêté, et 2 autres membres de la Nation of Islam. Ils ont passé respectivement 19 et 21 ans en prison. Mais en réalité, ils n'ont pas participé à l'assassinat. Ailleurs, le tireur condamné a attendu la mort d'Elijah Muhammad pour révéler le nom de ses vrais complices. 4 hommes qui jamais n'ont été inquiétés. La police et le FBI ont protégé leurs informateurs et leurs agents. Et l'enquête a été expédiée. 30 000 personnes sont venues saluer Malcolm X devant son cercueil au funérarium. Beaucoup se demanderont ce que Harlem peut trouver à honorer chez cet homme, dit le cinéaste noir Ossie Davis devant son corps. Beaucoup diront, poursuit-il, détournez-vous de lui, c'est un démon, un monstre, un perturbateur et un ennemi de l'homme noir. Et nous en sourirons, nous leur répondrons. Mais enfin, n'avez-vous jamais parlé au frère Malcolm? Si vous l'aviez connu, vous sauriez pourquoi nous devons l'honorer. Malcolm était notre humanité noire vivante. Et en l'honorant, nous honorons le meilleur de nous-mêmes. Et nous le reconnaîtrons pour ce qu'il fut et pour ce qu'il reste. Un prince, notre brillant prince noir, qui n'a pas hésité à mourir parce qu'il nous aimait tant. 25 000 personnes se sont rassemblées sur le chemin du cimetière à l'arrière des berlines. À l'intérieur, des fossoyeurs attendaient de faire leur travail. Des hommes blancs, oui tous. Les proches de Malcolm les ont donc congédiés. Non, il ne sera pas enterré par des blancs. Alors, ils ont pris leur pelle et ont mis en terre eux-mêmes l'un des plus grands leaders noirs américains.
Attention !
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, Malcolm X, dont nous allons parler avec une grande spécialiste des États-Unis qu'on connaît bien sur cette antenne de France Inter, Nicole Bacharan. Bonjour.
Bonjour.
Politologue, spécialiste de l'histoire américaine, autrice notamment du livre « Les Noirs américains des champs de coton à la Maison Blanche » chez Perrin en 2010. Et cette année, autrice de l'ouvrage « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » toujours chez Perrin avec un chapitre consacré non pas à Malcolm X d'ailleurs, mais à Martin Luther King. On a l'impression, quand on regarde la vie de Malcolm, que c'est un personnage quand même extrêmement versatile. Il change de nom, il change d'idée, il change de vie. Quel Malcolm X doit-on retenir finalement ?
Bah écoutez, c'est peut-être sa fille qui en parle le mieux, sa fille qu'il a à peine connue, forcément, puisqu'il a été assassiné en 1965, comme vous venez de le raconter. Et ça, comme c'est vrai, il a suivi tout un parcours avec des changements d'identité quasiment à maintes reprises et sur une vie quand même très brève, elle dit, mais voilà ce qu'il faut retenir de lui. C'était un jeune homme qui cherchait des solutions. Tout simplement, c'était pas un violent dans l'âme, c'était pas un pacifique dans l'âme, c'était pas un croyant dans l'âme, c'était un jeune homme, puisqu'il était jeune, qui voyait, qui avait vécu les problèmes de la communauté noire américaine et qui cherchait des solutions.
Donc en fait, il s'est perdu dans Nation of Islam en cherchant, parfois on se perd, et puis on finit par trouver le bon chemin, c'est ça?
Mais je pense qu'en tout cas, il a fait un grand virage à la fin de sa vie. Évidemment, il savait qu'il était très menacé, mais il ne savait pas que c'était la fin de sa vie. Mais de l'enfant brillant au délinquant, au prisonnier, aux musulmans tout dévoués à la Nation of Islam, dont il a perçu assez rapidement les limites. Mmh. Et bien tout, dans la dernière année de sa vie, il a fait notamment un pèlerinage à la Mecque qui l'a beaucoup marqué. Parce que ça l'a ouvert les yeux.
C'est le tournant, quoi.
Voilà, sur le fait que ce n'était pas un problème de noir, mais oui, uniquement. Il a dit, j'ai vu à la Mecque des musulmans avec des yeux bleus, des cheveux roux, et le teint beaucoup plus clair que le mien, puisque lui-même avait le teint assez clair. Et il a rencontré Martin Luther King dans cette même année 65, pour venir le soutenir dans une des nombreuses campagnes que Martin Luther King menait pour l'accès au droit de vote. Donc c'est vrai que je dirais qu'il s'est trouvé dans la dernière année de sa vie.
Et on peut dire que l'existence et le discours de Martin Luther King l'ont aidé finalement.
Oui, absolument. C'est vrai qu'on les a beaucoup opposés. C'est vrai que dans la jeunesse militante, il y a eu une irritation, si vous voulez, face à la non-violence, à l'idée de fraternité avant tout, de Martin Luther King, pour unir les Américains et les peuples du monde au-delà de toutes leurs différences, et que le côté plus révolté, plus flamboyant de Malcolm X a séduit davantage souvent les plus jeunes. Mais en fait, l'un complétait l'autre, et leur révolte était aussi profonde. Ils étaient juste à la recherche du meilleur moyen de parvenir à l'égalité.
Leur différence religieuse aussi, hein. Luther King était chrétien, Malcolm musulman, je ne sais pas si ça a eu beaucoup d'importance, mais que disaient-ils l'un de l'autre? On sait ce que King disait de Malcolm et inversement?
Bien, écoutez, ils se surveillaient, ils s'observaient de loin, en général, avec beaucoup d'attention. Alors, c'est vrai que Martin Luther King, chrétien, protestant, pasteur, était vraiment, cherchait son inspiration à la fois dans l'Évangile et chez Gandhi. Malcolm X, musulman, il n'a pas toujours été musulman, mais il l'a été profondément, était plus vindicatif, si vous voulez. Mais néanmoins, quand ils s'observaient l'un l'autre, ils voyaient, comme je le disais à l'instant, que leur révolte contre la condition des Noirs aux États-Unis était tout aussi profonde, et que la difficulté à faire bouger à la fois les autorités et la population était tout aussi profonde. Et quand Malcolm X est venu à Selma, dans l'Alabama, où Martin Luther King était en prison pour une de ses campagnes pour le droit de vote, Malcolm a rencontré Coretta King, l'épouse de Martin Luther King. Et il lui a dit, écoutez, moi je suis venu parce que vous connaissez ma réputation, en gros, et peut-être que les autorités vont davantage donner à Martin Luther King ce qu'il demande, l'inscription des Noirs sur les droits de vote, s'il voit que l'alternative, c'est quelqu'un comme moi. Et donc, il était venu le soutenir en jouant aussi du fait que il faisait quand même davantage peur, puisque c'était quelqu'un qui avait dit « Nous obtiendrons l'égalité par tous les moyens nécessaires ». Donc, une bonne partie de sa vie, il n'excluait pas la violence. Mais c'est vrai que Malcolm X avait tendance à regarder Martin Luther King d'un petit peu haut à cause de son désaccord sur la non-violence. Et puis, à la fin de sa vie, il s'en est beaucoup rapproché, au contraire.
Donc, il y avait finalement une vraie complémentarité au bénéfice des Noirs américains.
Tout à fait. Il y avait une analyse que je pense commune, hein, sur ce destin des Noirs américains. Il y a eu un optimisme plus grand au début de sa carrière de Martin Luther King. Il avait vécu une jeunesse privilégiée, en somme, dans un milieu noir bourgeois d'Atlanta, très protégé au fond de la réalité de ce que pouvaient vivre d'autres noirs américains. Il l'a découvert petit à petit, alors que Malcolm X, lui, a une enfance dévastée, juste et dévastée par le racisme et la ségrégation. Donc, c'est vrai qu'ils ne sont pas partis du même point, mais leur analyse, leur but et parfois même leur méthode se sont beaucoup rapprochés.
Qu'est devenu Nation of Islam et son influence, ses actions dans les années qui ont suivi?
Oui, Nation of Islam existe toujours, mm-hmm. et a été davantage présente dans les années 70, 80. Il y avait par exemple un soutien à la candidature de Jesse Jackson, qui n'en faisait pas partie, hein, puisqu'il est lui aussi chrétien baptiste. Mais néanmoins, la Nation of Islam soutenait, s'est présenté deux fois à l'élection présidentielle dans les années 80. Mais c'est aussi une organisation qui a été quand même pas mal décrié pour des prises de position antisémites, pour des affaires de corruption et également quand même pour le rôle très trouble et où le soupçon a persisté sur le rôle joué dans l'assassinat de Malcolm X.
Mmh. Oui, forcément. Et d'ailleurs, à ce point de vue, justice n'a pas été rendue. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? On sait juste qu'il a été abattu par deux tireurs. Vous le racontiez très bien. Qui a commandité, qui a protégé, qui a fait en sorte que, comme vous le disiez, on efface la scène de crime dans l'après-midi qui a suivi. Rien de tout cela n'a jamais été éclairci.
Non, il n'y a aucune preuve. Hein. Je parle de preuve de la responsabilité de la police de New York et du FBI dans l'assassinat de Malcolm X, bien sûr. C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves qu'il n'y a pas de soupçons. Hein.
Voilà, exactement. Et c'est vrai que dans les années qui ont suivi, là on est en 1965, en 1968, il y aura l'élection de Richard Nixon, et beaucoup de militants noirs ont été éliminés physiquement.
Bah, dont Martin Luther King en 68, d'ailleurs.
Martin Luther King en 68, tout à fait. Robert Kennedy, qui était un militant de la cause des Noirs.
Absolument.
La même année.
Assassiné en août à Los Angeles, je crois.
C'est exactement. Ça mm-hmm. Et au cours de la présidence de Richard Nixon, donc entre 68 et 74, nombre de militants noirs, alors certains qui n'étaient pas des anges, il ne faut pas se leurrer, mais d'autres qui étaient juste vraiment des militants extrêmement sincères dans leur démarche, ont été éliminés par le FBI au cours de fusillades dont l'origine était quand même bien souvent un prétexte. Mmh.
Le mouvement des droits civiques des Afro-Américains aux USA ne s'est évidemment pas arrêté ni à l'assassinat de Malcolm X ni à celui de Martin Luther King. Quelles sont les places que ces deux hommes occupent dans la suite de ce mouvement? Est-ce qu'il y a eu vraiment alors deux leaders morts? Pourquoi pas? On peut avoir deux leaders même s'ils sont pas en vie. Leur âme et leur discours sont là. Est-ce qu'ils ont été vraiment les deux figures de cette lutte?
En tout cas, ils demeurent les figures de cette
encore,
lutte.
Hein.
Si on voit les célébrations chaque année, les commémorations du grand discours de Martin Luther King, I have a dream, je fais un rêve, encore cette année, c'est quelque chose qui est très fort, qui est très présent. Et dans tout le mouvement Black Lives Matter, Malcolm X, la figure de Malcolm X, certaines de ses déclarations sont très présentes. Alors c'est vrai qu'il y a eu un autre moment dans cette avancée et ces reculs parfois des droits civiques, c'est évidemment la présidence de Barack Obama.
Mais oui,
Barack Obama, voilà, a été un président que la communauté noire d'ailleurs a très très fortement soutenu, mais président de tous les Américains et pas militant d'une cause, même si l'élection elle-même marquait une avancée extraordinaire. Mais le retour de bâton de la présidence de Donald Trump, au cours de laquelle il y a eu ces événements dramatiques, dont l'assassinat en direct de George Floyd, montre bien que la question n'est pas résolue. Mais c'est vrai que, justement, en pensant à Black Lives Matter, à la place qu'occupent toujours les deux figures tutélaires, Martin Luther King, Malcolm X, on voit bien qu'il n'y a pas un autre leader charismatique qui a surgi. Il n'y a personne qui a cette aura, qui a ce charisme, cette faculté de dire les mots qui vraiment emportent. Ça ne veut pas dire que le mouvement ne soit pas très, très, très actif, mais on ne rencontre pas tous les jours un Martin Luther King ou un Malcolm X ou un Barack Obama dans un rôle tout à fait différent.
Et il faut une incarnation. Oui, enfin, il faut souvent toujours une incarnation dans les grands mouvements sociaux comme ça. Mais là, ça vous paraît vraiment indispensable que les Noirs retrouvent un Malcolm ou un Martin Luther?
Alors c'est vrai que c'est pas à la mode, si vous voulez, cette idée qu'il faut une incarnation. On parle beaucoup de mouvements horizontaux, participatifs, partant de la base, où chacun a sa voix. Et ça, son rôle et son efficacité. Mais le fait est que une figure charismatique qui emballe, qui enthousiasme, qui emporte, ça me semble quand même toujours nécessaire. En tout cas, ça aide beaucoup. Mais c'est pas l'humeur du moment. Et puis, je pense que ça n'émerge pas souvent.
Mais ça peut émerger par l'art aussi. Les rappeurs, notamment.
Oui, ça peut émerger par l'art, par la musique, par la peinture, par la danse. Il y a des compagnies de danse qui ont vraiment exprimé le mouvement des droits civiques d'une manière tout à fait admirable. Par la littérature, évidemment. Vous citiez James Baldwin il y a un instant. Tout cela porte la voix de grands mouvements comme le mouvement des droits civiques.
Qu'est-ce qu'on attend de Joe Biden? Qu'attendent-ils les Noirs de Joe Biden? Ils se disent, bon, c'est un démocrate. Avec les démocrates, c'est toujours un peu moins dur qu'avec les républicains. Je sais pas si je peux schématiser comme ça, mais ça y ressemble quand même. Qu'est-ce qu'ils attendent de Joe Biden?
Écoutez, je crains qu'aujourd'hui, ils n'attendent plus grand-chose. C'est vrai que cette présidence de Joe Biden, qui a suscité beaucoup d'espoir, ne serait-ce que parce qu'il n'était pas Donald Trump, et qui a bien démarré dans les premiers mois, elle est quand même bien plombé aujourd'hui, et qu'il se focalise, et là je peux le comprendre, sur les questions économiques et sociales, les salaires, la sécurité au travail, l'éducation, les crèches, les gardes d'enfants, l'accès aux soins. Tous ces projets législatifs actuels sont sur ces questions économiques et sociales. Et il se tient assez loin des questions de racisme ou de genre qui agitent beaucoup une partie de la société américaine et même du parti démocrate. Donc je crois que ce que les Noirs américains d'aujourd'hui attendent le plus, d'après tout ce que je peux entendre, c'est à la fois une amélioration de leur situation sociale, une amélioration de leur standard de vie et surtout des réformes dans la police. Une police mieux contrôlée, mieux entraînée et qui soit condamnée quand ont lieu des drames comme il s'en produit beaucoup trop souvent. Ça dépend quand même pas uniquement de Joe Biden, parce que l'autorité de la police est une autorité locale, mais le président, le Congrès ont le pouvoir d'établir des normes fédérales pour le comportement et les méthodes de la police. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est très attendu de Joe Biden.
Ce sera le mot de la fin, Nicole Bacharan. Merci infiniment. Je rappelle le titre du livre que vous avez écrit, publié cette année, Les grands jours qui ont changé l'Amérique chez Perrin. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Malcolm X, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr, sur le site de France Inter et sur l'appli Radio France. À la technique aujourd'hui, nous y reviendrons. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour vous remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Attaché de production, Rebecca de Nantes, coordination Christophe Barrère, lecture Aurélien Labruyère et Philippe Pirard, programmation musicale Valentine Chedebois, réalisation Marion Lelay, Flora Bernard, Stéphane Combe. Et c'était Johanna Gabric à la technique et que je remercie.